Bonjour, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous avec 7 jours d'actualité, un rendez-vous plus long désormais qui va nous permettre de parler de plus de choses.
Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Une semaine d'actualité donc, une émission que vous pouvez retrouver sur notre application RFI Pure Radio et sur notre site www.rfi.fr. Nous allons beaucoup parler du Proche-Orient dans cette édition avec un historien, Jean-Claude Lescure, auteur d'un livre complet qui s'intitule « Le conflit israélo-palestinien en 100 questions » publié aux éditions Talendier. Mais d'abord, revenons sur la cérémonie d'hommage national au colonel Arnaud Beltrame, le gendarme qui a donné sa vie pour sauver une otage lors de l'attaque djihadiste dans le sud de la France, dans un magasin il y a une semaine. Cérémonie présidée par le président Emmanuel Macron, mercredi.
Être prêt à donner sa vie, parce que rien n'est plus important que la vie d'un concitoyen. Tel est le ressort intime de cette transcendance qui le portait. Là était cette grandeur qui a sidéré la France. Le lieutenant-colonel Beltrame avait démontré par son parcours exceptionnel que cette grandeur coulait dans ses veines. Elle irradiait de sa personne. Elle lui valait l'estime de ses chefs, l'amitié de ses collègues et l'admiration de ses hommes. Il a pris une décision qui n'était pas seulement celle du sacrifice, mais celle d'abord de la fidélité à soi-même, de la fidélité à ses valeurs, de la fidélité à tout ce qu'il avait toujours été et voulu être.
Une semaine d'actualité.
Bonjour Jean-Claude Lescure.
Bonjour Pierre-Edouard.
Ravi de vous retrouver à ce micro. Vous êtes professeur des universités en histoire contemporaine à l'université de Cergy-Pontoise, enseignant à l'Institut d'études politiques de Saint-Germain-en-Laye, fondateur de l'école de journalisme de Sciences Po il y a quelques années de cela. Vous avez de multiples talents, notamment celui de créer des écoles.
Oui.
Ce qui n'est pas fréquent chez un universitaire.
Non, mais c'est surtout une attention extrême pour le métier de journaliste, une véritable passion rentrée. Vous avez l'universitaire refoulé qui parle au micro.
Qui s'intéresse donc à l'histoire contemporaine, c'est votre spécialité. Et là, vous avez voulu faire le point sur ce conflit israélo-palestinien extrêmement complexe et très ancien, et c'est un pari réussi, mais quel travail !
C'est un petit peu un point d'aboutissement d'un centre d'intérêt qui a maintenant quasiment 2 décennies, qui s'accompagne de voyages et de séjours réguliers et d'une bonne bibliothèque et puis de bon nombre d'interviews sur le terrain. C'est un travail d'abord qui a une forme un peu particulière puisqu'en 100 questions, ça a l'avantage de pouvoir sans arrêt se décentrer et d'essayer de faire un tour du problème à 360 degrés. Et on n'est pas embarqué dans une thèse qu'il faut défendre. Et du coup, c'est la volonté là de l'universitaire, de l'enseignant que je suis, de montrer un petit peu la complexité du problème en regardant les légitimités doubles côté israélien, côté palestinien, et sans arrêt d'inverser les points de vue en réalité, pour montrer que, d'abord, au-delà de la complexité, vous avez des individus qui jouent leur vie véritablement dans ce conflit, et qui en même temps laisse une large place à la vie de la société civile, parce que ce soit côté palestinien, côté israélien, à côté des gouvernements, vous avez bon nombre d'associations qui continuent à maintenir le dialogue, même si en apparence tout est rompu ou semble bloqué.
Jean-Claude Lescure, je vais tout de suite faire appel à vos compétences d'historien, parce qu'on parle ce matin beaucoup de la journée de la Terre et des victimes qu'elle a déjà faites. Vous pouvez nous rappeler ce qu'est cette journée de la Terre, dans quelles conditions elle est née ?
Alors c'est un des moments du rassemblement palestinien, quelles que soient les factions et l'origine de ces Palestiniens. En fait, dès 1957-58, on a en Israël, chez les Arabes israéliens, la création d'un parti politique qui s'appelle El Ard, qui va revendiquer la terre, qui va monter de premières tentatives de manifestation, très vite interdit par, à l'époque, l'autorité militaire, qui, notamment en Haute-Galilée, a autorité sur les Arabes israéliens. Et donc en 62, le mouvement tombe, les gens sont emprisonnés. Ça reprend en 1976, toujours côté israélien, chez les Arabes palestiniens, chez les Arabes israéliens, avec là une manifestation qui va tourner mal, puisqu'il y a 7 à 8 morts côté palestinien. Et du même coup, ils s'inscrivent dans la liste, et on veut mettre des guillemets, mais la martyrologie palestinienne à proprement parler. Et du coup, ce moment, cette manifestation de la terre, devient un vrai moment de manifestation de façon récurrente. Et à partir des années 90, de la seconde intifada, c'est vraiment un des temps forts, en fait, des manifestations palestiniennes.
Alors, nous allons commencer notre voyage dans la région. Jean-Claude Lescure, 3 jours durant, les Égyptiens ont voté cette semaine pour réélire le président sortant, Abdel Fattah al-Sissi. Écoutez, par exemple, ce reportage au Caire de notre envoyé spécial, Nicolas Falaise.
Il y a ceux qui patientent devant les bureaux de vote du Caire, comme Salah.
J'ai voté pour le président Sissi. Pourquoi ? Parce qu'il est le protecteur de notre pays. Avec lui, l'avenir sera bon.
Il y a ceux qui votent et qui, la plupart du temps, votent Abdel Fattah al-Sissi. Il y a ceux qui font campagne pour encourager la participation avec musique et distribution de drapeaux devant les bureaux de vote. Et puis, il y a les Égyptiens qui n'iront pas voter cette semaine, comme ce chauffeur de taxi.
Cet homme est venu il y a 4 ans, il nous a dit de patienter 1 an, on l'a fait 2 ans, on l'a fait 3 ans, et à la fin rien. Les prix ont augmenté, toute l'opposition est en prison, celui qui pense à se présenter, on lui fait un procès, on le met en prison. Bien sûr, ce ne sont pas des élections auxquelles je peux participer, c'est juste une farce.
Lors de la présidentielle de 2014, 37% des électeurs s'étaient rendus aux urnes le jour du scrutin. Un deuxième jour de vote avait alors été annoncé, mais la participation finale n'avait pas dépassé les 48%.
Et cette fois, cette participation est estimée à 40%, avec un 97% de oui. L'époque est au président élu avec des scores qu'on croyait relégués dans les souvenirs lointains.
Dans les souvenirs de la France-Afrique. Alors là, ça appelle toute une série de remarques. D'abord, la difficile démocratisation de l'Égypte, c'est un État indépendant depuis 1922. Or, au début, vous avez vu des partis politiques qui ont été créés, les Anglais surveillaient de près l'Égypte, et en fait la démocratisation sous le règne du premier roi d'Égypte n'a jamais pu aboutir. Systématiquement, lorsque le Parlement était élu, vous aviez une opposition très forte qui se retrouvait là, et systématiquement le Parlement était dissous avec l'appui des Britanniques. Et puis lorsque véritablement les Britanniques sont mis dehors, hein, c'est l'affaire de Suez, c'est l'arrivée véritablement de Nasser au pouvoir. Nasser va jouer la carte du panarabisme et n'a que faire de la démocratisation, donc ils veulent la mettre véritablement
sous cloche,
totalement sous cloche. Et le processus va se poursuivre avec son successeur Sadat, jusqu'à quasiment aujourd'hui.
Mais là j'ai encore les images de 2011, c'est une manifestation sur la place Tahrir, quelle évolution.
Ouais, et quel oubli, et quelle répression, parce que les geôles en Égypte sont pleines, vous avez une jeunesse qui est totalement désabusée aujourd'hui de par la politique, et on voit là un taux de participation de 40%, mais on voyait également que parmi les votants, on a un nombre de bulletins déchirés ou de bulletins blancs qui n'avaient jamais été atteints. Donc il y a une forme de, au-delà de ne pas aller voter, une forme de contestation dans les urnes qui s'est aussi exprimée. Et ça, je pense que c'est le point fort de l'enseignement de ces jours-ci. Le deuxième enseignement, c'est y aura-t-il réforme de la constitution égyptienne ? Le chef d'État, normalement, ne peut avoir que 2 mandats, mais la place Tahrir bruisse de rumeurs pour la possibilité de modification constitutionnelle.
Sept jours dans le monde.
Alors partons pour la Chine, Jean-Claude, avant de revenir dans votre région de prédilection. Chine qui a reçu cette semaine en grande pompe le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, qui effectuait son premier voyage à l'étranger depuis son accession au pouvoir, voyage en train. Correspondance régionale de Frédéric Ojardias à Séoul.
C'est la toute première fois que Kim Jong-un sort des frontières de son pays et rencontre un chef d'État étranger depuis son accession au pouvoir fin 2011. Ce tête-à-tête avec Xi Jinping permet tout d'abord au dirigeant nord-coréen de se coordonner avec son principal allié et de le rassurer avant les sommets cruciaux prévus avec le président sud-coréen et surtout avec le président américain Donald Trump. Kim Jong-un a peut-être aussi cherché des garanties de sécurité de la part de Pékin alors que les États-Unis continuent de considérer l'option militaire pour résoudre la crise nucléaire. Les relations entre les deux alliés s'étaient beaucoup dégradées depuis que la Chine applique avec rigueur les sanctions internationales visant à obliger le Nord à renoncer au nucléaire. Mais alors que les pourparlers de dénucléarisation approchent et que les sanctions frappe durement son économie, le régime nord-coréen a plus que jamais besoin de se réconcilier avec son grand frère chinois. Kim Jong-un a même invité Xi Jinping à se rendre à Pyongyang, invitation que ce dernier a acceptée.
Avant de vous retrouver, Jean-Claude Lescure, partons cette fois pour New York, à l'ONU, alors que la Ruta orientale est tombée et que la population est livrée à elle-même désormais. Marie Bourreau, mardi.
Mâchoire serrée, Nikki Haley, l'ambassadrice américaine, dénonce ce jour honteux pour le Conseil de sécurité, incapable de faire appliquer un cessez-le-feu voté à l'unanimité pour une durée initiale d'un mois.
Siège, famine et capitulation, c'est le rythme insoutenable de la guerre en Syrie. Alors que nous nous retrouvons aujourd'hui, la troisième étape se déroule dans la Ruta, la reddition des populations. À la fin du soi-disant cessez-le-feu, la Ruta orientale est presque tombée.
Les populations civiles ont fui en masse l'enclave, près de 80 000 personnes, selon l'ambassadeur français François Delattre, qui a dénoncé ces évacuations forcées, susceptibles de constituer des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre.
55 000 civils sont désormais présents dans 8 abris collectifs administrés par le régime syrien autour de la Ghouta orientale, sans eau ni électricité et aux conditions sanitaires désastreuses. Leur sort ne s'est pas amélioré, loin de là. Leur enfer s'est juste déplacé de quelques kilomètres.
Faute de cesser le feu, l'ONU veut donc se concentrer sur la protection des civils et sauver ceux qui peuvent l'être encore, les Syriens restés dans la Ruta et ceux déplacés et désormais à la merci du régime.
Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Claude Lescure qui vient d'écrire le conflit israélo-palestinien en 100 questions, un livre que je vous recommande plus que jamais avec l'actualité qui est la nôtre. Livre publié aux éditions Talendier. Avant de retrouver Israël et la Palestine, un mot sur la Corée, ce qui se passe en Corée.
Ah oui, c'est
le voyage du leader nord-coréen en Chine.
Il y a un schéma assez intéressant, c'est d'abord de le voir se déplacer en train. Là, il renoue avec la tradition qu'avait son père, avec la tradition également des chefs de guerre au moment de la révolution russe qui parcouraient la Sibérie dans des trains blindés. Mais au-delà de ça, comme chef d'État, c'est effectivement son premier voyage à l'étranger, mais c'est un personnage qui connaît très bien l'Europe. Il a fait une partie de ses études en Suisse, il a visité la Grande-Bretagne, il connaît les systèmes politiques occidentaux. Donc c'est loin d'être le personnage reclus dans sa capitale et regardant le monde d'en haut. On a affaire au contraire à quelqu'un qui est très formé politiquement et il le montre là dans le bras de fer avec les États-Unis, vraisemblablement très fin tacticien.
Oui, plus fin qu'on ne le dit, effectivement.
Oui,
D'autant
plus redoutable, oui. Il connaît bien les armes de propagande, il sait s'en servir.
Alors, nous étions, Jean-Claude Lescure, il y a quelques minutes, au Conseil de sécurité de l'ONU, qui n'a pu, une fois de plus, que constater les dégâts.
Alors, c'est malheureusement le sort bien souvent du Conseil de sécurité. Bon, d'abord, on connaît son mode de fonctionnement avec le système de veto croisé des membres permanents. Mais au-delà de ça, sur la situation proche-orientale, ils sont ces hommes et ces femmes qui siègent sont quelque peu coincés. Il y a des mots qu'ils ne peuvent pas employer. Le terme de génocide, par exemple, ça a des impacts immédiats en droit international. Les États-Unis seraient obligés d'intervenir. Or, on sait bien que les interventions des Occidentaux dans la région ne sont pas souhaitées par nos gouvernements. Donc nous sommes là encore les spectateurs de crimes de guerre, de crimes de masse contre des populations civiles, 500 000 morts depuis le début du conflit. Puis la France, elle connaît bien la géographie de la de, Damas et de la Ghouta orientale, on a été parmi les premiers à envoyer des militaires en 1920 quand la France a conquis, par le biais des mandats de la SDN, cette région. Donc nous, on a une relation compliquée avec la Syrie. On a bombardé leur parlement en 1945 avant de se retirer. Donc on a du mal à donner des leçons aux Syriens alors qu'on a quand même un passé colonial là qui passait mal.
Un peu, oui. Jean-Claude, dans votre livre, vous parlez des accords en Saïs-Picot. Il faut lire votre livre pour se remémorer ce que furent ces accords. Vous pouvez en dire un mot.
C'est un gros moment de la diplomatie secrète qui caractérisait les puissances coloniales à la fin du 19e, au début du 20e. On est en 1916, en pleine guerre, donc se pose la question du devenir des territoires qui relevaient de l'Empire ottoman, on sait qu'il va tomber. Et du même coup, la diplomatie française d'un côté, avec Picot, la diplomatie britannique de l'autre côté, avec Saïs, eh bien, envisage le découpage de ce monde. Et ils font ça, comme on l'avait fait en Afrique, avec une carte, une grande ligne droite, ce qui explique qu'en partie les frontières que l'on peut voir aujourd'hui entre la Syrie et l'Irak, par exemple.
Comme quoi, il n'y a pas qu'en Afrique que ces frontières ont été tirées au cordeau.
Non, il n'y a pas que là. Mais là, elles ont pu bouger. Et par exemple, l'accord Saïs-Picot, les Britanniques ont voulu revenir dessus assez rapidement. Et les Français ont cédé assez vite avec la question de Mossoul, zone kurde, dont on parle encore beaucoup aujourd'hui, riche en pétrole, au départ attribuée à la France. Et puis, Clémenceau, dans les négociations de Versailles, va les laisser partir tranquillement parce que c'est un sujet qui pour lui est secondaire. Il n'empêche que c'est le pétrole de Mossoul qui va alimenter la France en pétrole grâce à la Société française des pétroles dans les années 20-30, et le développement économique français va se faire avec le pétrole kurde, même s'il était exploité par l'Irak sous suggestion britannique.
Kurde que l'on a un peu abandonné là aujourd'hui.
On a totalement abandonné, mais c'est pas la première fois. En 1920, l'un des traités, qui est le traité de Sèvres, prévoit la possibilité d'une autodétermination kurde, que les Kurdes ne mèneront pas au bout parce que ils sont divisés entre tribus, ils vont véritablement passer à côté d'une chance historique. En 23, le traité de Sèvres est abandonné, remplacé par le traité de Lausanne, qui va fabriquer les frontières turques actuelles, remises en question par l'avancée turque à Afrin. Et véritablement, ce traité de Lausanne va passer sous silence le sort des Kurdes, va les diviser entre les quatre États qui sont voisins, et depuis, de façon récurrente, première révolte kurde dans la zone en Turquie, c'est 1925. Donc on est sur des phénomènes de longue durée. Et là, il n'y a pas que la responsabilité des Occidentaux, il y a des responsabilités locales aussi qui ont joué.
De l'importance de connaître l'histoire pour bien comprendre l'actualité.
Une semaine d'actualité.
Jean-Claude Lescure, direction les États-Unis maintenant, car il nous faut revenir bien sûr sur la plus grosse manifestation anti-armes dans le pays, et notamment à Washington, il y a juste une semaine, samedi dernier. Reportage de notre correspondante Anne Corpé.
Ils déboulent de leur car en chantant. Les lycéens sont venus de tout le pays pour manifester leur colère à Washington. Sur le trottoir, Jim, 63 ans, les salue avec enthousiasme.
Thanks for coming out.
Merci d'être venu. Vous allez vous souvenir de ce jour tout le reste de votre vie. Vous avez rendu cela possible. C'est énorme, c'est le début d'un mouvement. Ces jeunes lycéens ont inspiré la nation.
Sur la scène, les discours s'enchaînent. Seuls des adolescents sont conviés au micro, ou des enfants, comme la petite fille de Martin Luther King qui déclare
« J'ai fait un rêve. Assez, c'est assez. Cela devrait être un monde sans armes. Point final. »
Emma Gonzalez, lycéenne de Parkland, en Floride, parvient, elle, à imposer un silence impressionnant de plusieurs longues minutes à l'immense foule. Tout autour de la scène, des volontaires permettent aux jeunes de s'inscrire sur les listes électorales. Les lycéens scandent des slogans contre la NRA, le lobby des armes. Maggie a 17 ans.
Je suis sûre que ça va faire changer les choses. Quand les adultes voient les gamins se bouger, ils réalisent que quelque chose doit être fait. On doit arrêter de soutenir les candidats payés par la NRA.
Et les lycéens remontent dans leur car, gonflés d'espoir.
Jean-Claude Lescure, il s'est passé manifestement quelque chose le week-end dernier aux États-Unis.
Ah bah là, pour l'historien que je suis, c'est véritablement un événement historique. On a affaire à une mobilisation extraordinaire d'adolescents. C'est Emma Gonzalez qui devient une figure. Elle a 16-17 ans. Elle est capable de galvaniser les foules. C'est absolument extraordinaire. Et puis surtout, cette remise en cause fort intelligente du deuxième amendement de la Constitution américaine qui permet de posséder des armes pour se défendre contre un État oppresseur éventuellement. Et là, cette remise en cause, elle devient politique parce que ces jeunes sont en train de dire « Homme politique, dans 2 ans, dans 4 ans, nous allons voter. Et en fonction de vos décisions, cela va orienter notre choix. » Et c'est vraiment la première fois où on a une classe politique qui se retrouve menacée. Et c'est à relier avec un deuxième acteur qui est apparu, c'est l'acteur commercial qui a fait savoir que vous avez des grands groupes qui commencent à ne plus vendre des armes, qui se désengagent, qui retirent des fonds d'investissement, qui retirent de leur portefeuille des sociétés qui fabriquent des armes. Et du même coup, y compris la société Remington, qui n'a pas fabriqué que des machines à écrire, mais aussi des armes automatiques, eh bien là, qui connaissent des vraies difficultés financières parce que vous avez un mouvement qui démarche les adolescents et qui est en train de gagner la sphère commerciale.
Ah, il faut parler absolument, vous l'évoquez, vous l'analysez dans le livre, Jean-Claude Lescure, de ce que l'on appelle la relation spéciale entre les États-Unis et Israël.
Oui, alors ça c'est...
Il y a beaucoup de questions de la part de nos auditeurs sur cette relation spéciale qu'ils trouvent souvent d'ailleurs injuste.
Alors c'est une des particularités de cette histoire, parce que au départ, en réalité, les États-Unis, bon, qui vont soutenir, comme l'Union soviétique, la création d'État d'Israël par un vote à l'ONU en 1947 et qui advient en 1948, au départ, c'est surtout les Français qui sont les alliés privilégiés d'Israël. Et puis en 1967, le général de Gaulle, au moment de la guerre des Six Jours, va totalement inverser la politique française et développer une politique arabe et avoir des prises de position qui vont bloquer la position française dans cette zone. Au contraire, les États-Unis, eh bien, vont faire, à partir des années 60, d'Israël, dans le cadre de la guerre froide, un de leurs alliés principaux pour lutter contre l'expansion soviétique qui est alliée avec la Syrie d'un côté, alliée avec l'Égypte de l'autre. Et du coup, la relation spéciale, eh bien, elle date vraiment du début des années 1961-62 et elle n'a cessé véritablement de se développer. Alors en même temps, elle est plus large que la relation israélienne, puisque ce sont les États-Unis qui sont garants des accords de paix qui ont été passés avec le président Sadat en Égypte en 1979. Et du même coup, les États-Unis accordent encore aujourd'hui plus d'1 milliard à l'économie égyptienne chaque année, assurent une partie de sa défense, comme de la même façon, ils assurent une partie du financement de la défense israélienne. Alors on a sur la longue durée là, à la fois le départ des Français de la zone, l'effet guerre froide et l'arrivée des Américains qui est là. Et puis, la nouveauté, c'est quand même l'élection du président Trump. Et
là, on arrive au paroxysme de cette relation spéciale, avec le Jérusalem comme capitale.
Absolument. Alors, même si Jérusalem avait été décidée comme capitale dès 1995 par un vote des démocrates, le président Clinton et ses successeurs avaient toujours repoussé de 6 mois en 6 mois le transfert. Donc, Trump, là, a donc changé littéralement de pied. Mais surtout, plus grave, c'est que... au-delà de la relation spéciale, il a perdu ce qui était un des éléments de sa neutralité et qui faisait des États-Unis l'acteur nécessaire dans un accord de paix avec les Palestiniens. Et là, il y a un problème clé, c'est le financement de l'UNRWA, qui est cet office des Nations Unies en charge des réfugiés, qui sont spécifiquement les réfugiés palestiniens. Et c'est un office très particulier qui a été créé dès 1949 et qui va créer un statut qui n'existe nulle part ailleurs au monde, puisque le statut de réfugié palestinien est transmissible aux enfants. Ça fait partie du patrimoine au moment de l'héritage. Et du même coup, on en est à la 4e voire 5e génération maintenant d'enfants qui sont réfugiés palestiniens. Or, qu'a annoncé le président des États-Unis, c'est qu'il allait couper dans l'aide là. Or, cet office, eh bien, il fait tourner...
C'est vital.
Il est vital, il fait tourner l'économie de tous les camps palestiniens, et notamment toutes les écoles qui font que les Palestiniens sont au Moyen-Orient les personnes qui ont le niveau de formation parmi les meilleurs du monde arabe.
Alors, on notait aussi dans l'actualité internationale, Jean-Claude Lescure, que les Houthis ont marqué lundi le 3e anniversaire de la guerre saoudienne au Yémen par une démonstration de force dans la capitale, Sanaa. Peu après après avoir tiré une salve de missiles balistiques sur l'Arabie qui dirige, on le sait, une coalition militaire contre ces rebelles soutenus par l'Iran. Il faut savoir aussi que la Russie observait mercredi une journée de deuil et enterrait les premières victimes de l'incendie d'un centre commercial en Sibérie, 3 jours après ce drame qui a fait au moins 64 morts et qui a bouleversé tout le pays. Russie qui a décidé d'expulser à son tour 60 diplomates américains et de fermer le consulat américain à Saint-Pétersbourg après la décision de Washington d'expulser 60 diplomates russes et de fermer le consulat russe de Seattle en solidarité avec la Grande-Bretagne après l'empoisonnement de l'ex-espion Sergueï Skripal en Angleterre.
Une semaine d'actualité.
Et passons à l'actualité française. Maintenant, Jean-Claude Lescure, avant de repartir au Proche-Orient, actualité française avec l'hommage national rendu au colonel Arnaud Beltrame mercredi aux Invalides. Écoutez ce qu'a dit à l'occasion de cette cérémonie Emmanuel Macron à propos cette fois de la lutte contre l'islamisme.
Le camp de la liberté, celui de la France, est confronté aujourd'hui à un obscurantisme barbare qui n'a pour programme que l'élimination de nos libertés et de nos solidarités. Les atours religieux dont il se pare ne sont que le dévoiement de toute spiritualité et la négation même de l'esprit. Car il nie la valeur que nous donnons à la vie. Valeur niée par le terroriste de Trèbes. Valeur niée par le meurtrier de Mireille Knoll qui a assassiné une femme innocente et vulnérable parce qu'elle était juive et qui ainsi a profané nos valeurs sacrées et notre mémoire. Non. Ce ne sont pas seulement les organisations terroristes, les armées de Daesh, les imams de haine et de mort que nous combattons. Ce que nous combattons, c'est aussi cet islamisme souterrain qui progresse par les réseaux sociaux, qui accomplit son œuvre de manière invisible, qui agit clandestinement sur des esprits faibles ou instables, trahissant cela même dont il se réclame, qui sur notre sol endoctrine par proximité et corrompt au quotidien. C'est un ennemi insidieux qui exige de chaque citoyen, de chacun d'entre nous, un regain de vigilance et de civisme.
Et une cérémonie d'hommage aux 3 victimes civiles des attaques commises vendredi, donc dernier, par Radwan Lakhdim et revendiquées par l'État islamique s'est tenue jeudi matin à Trèbes, donc dans l'Aude, en présence du Premier ministre Édouard Philippe. Revenons maintenant, Jean-Claude Lescure, sur l'enquête sur le meurtre de Mireille Knoll, cette femme de 85 ans, assassinée vendredi dernier à Paris. Franck Alexandre, au début de la semaine.
L'homicide volontaire a été retenu par le parquet en raison notamment de l'appartenance vraie ou supposée de la victime à une religion. Le corps de Mireille Knoll, 85 ans, a été retrouvé en partie carbonisé vendredi en début de soirée dans son appartement parisien où elle vivait seule. Les pompiers avaient été alertés par une voisine après le début de l'incendie. Les policiers se sont rapidement orientés vers la piste criminelle après la découverte de plusieurs départs de feu dans l'appartement, puis de traces de coups de couteau sur le corps de la victime. 2 personnes ont rapidement été arrêtées. Le premier suspect de 29 ans est un voisin. Il est connu des services de police pour des affaires d'agression sexuelle. Il était passé dans l'appartement de la victime dans la journée. Le second, âgé de 21 ans, se trouvait également dans l'immeuble de Mireille Knoll le jour du meurtre. Lui aussi est connu pour des vols avec violence.
Une marche blanche en mémoire de Mireille Knoll a eu lieu mercredi. Une marche troublée par la présence de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, que le CRIF ne souhaitait pas voir. Là, reportage de Julien Chavanne.
Elle ne sera restée qu'une dizaine de minutes dans le cortège. Marine Le Pen n'était pas la bienvenue et elle s'y attendait.
Le fils de Madame Knoll a considéré que tout le monde devait être là. Alors, ce qui eut, manque de respect à l'égard de la victime, je crois. Mais le CRIF ne représente que lui-même.
Très vite, la sécurité de la présidente du FN se retrouve débordée, cernée par des gens hostiles. Des coups partent. Marine Le Pen se réfugie dans une petite rue, sans pour autant quitter les lieux.
Rue du Temps, dans la lutte contre ce fondamentalisme.
Même ambiance autour de Jean-Luc Mélenchon. Le député marseillais est exfiltré de la marche. À l'abri, le chef de la France insoumise joue l'apaisement.
C'est dommage, mais bon. Il faut le prendre avec philosophie et pas jeter de l'huile sur le feu. Je pense qu'il faut, rester dans le ton, dans l'esprit de fils.
Jean-Luc Mélenchon garde le ton et la distance qui lui ont valu les applaudissements de l'Assemblée nationale cette semaine. Mais la polémique et la politique sont quand même venus parasiter, polluer cette marche blanche.
Jacques Chirac avait, paraît-il, l'habitude de dire que les ennuis, ça vole en escadrille. Peut-être Nicolas Sarkozy a-t-il pensé à ce mot quand il a appris jeudi qu'il avait un nouveau rendez-vous au tribunal. Explication de Pierre-Olivier.
Même s'il a fait appel, la perspective de devoir affronter un procès pour corruption active et trafic d'influence assombrit un peu plus l'horizon judiciaire de Nicolas Sarkozy. En effet, l'ex-chef d'État est déjà sous la menace d'un procès, cette fois dans le dossier Big Malion pour financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. L'affaire des écoutes téléphoniques, elle, est dérivée de celle dite du financement libyen dans laquelle Nicolas Sarkozy a été mis en examen le 21 mars dernier. En 2013, alors qu'ils enquêtent sur le possible financement libyen de la campagne présidentielle de 2007, les juges décident de mettre l'ancien président sur écoute téléphonique. Ils s'aperçoivent alors que Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog, sous de fausses identités, tentent de corrompre un magistrat de la Cour de cassation. En contrepartie d'un poste prestigieux à Monaco, Nicolas Sarkozy demande au magistrat des informations couvertes par le secret judiciaire. Finalement, l'ancien chef d'État n'obtient pas ce qu'il souhaitait. Mais dans cette affaire, il est mis en examen pour corruption en 2014. 4 ans plus tard, les juges décident de le poursuivre pour corruption active et trafic d'influence.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Jean-Claude Lescure, qui vient d'écrire le conflit israélo-palestinien en 100 questions, un livre publié chez Talendier. Vous avez écouté Emmanuel Macron avec beaucoup d'attention, Jean-Claude.
Oui, parce que, bon, outre l'émotion qui transparaît dans ses propos, pour ce drame de Trèbes, il y a des nouveautés en fait à l'intérieur du discours présidentiel. C'est que cette fois-ci, il nomme pour la première fois ce que ses prédécesseurs n'avaient pas fait, l'islamisme radical comme étant à la source véritablement de ça. Avant, on avait des postures ou des discours qui avaient tendance à délayer les responsabilités, à renvoyer ça à des questions sociales en France, ouais, etc. Là, véritablement, la dimension d'un dévoiement religieux est pointée et du doigt par le président de la République. Et de ce point de vue-là, on a vraiment un changement de ton qui est remarquable dans ses propos.
Alors, je voudrais qu'on parle de cette marche blanche qui devait être silencieuse et qui a été troublée. D'abord par un appel du CRIF, qui représente les institutions juives en France, qui voulait exclure Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, car le président du CRIF estime que dans ces deux tendances politiques, l'antisémitisme est surreprésenté, je le cite. Ça a provoqué une belle pagaille et une polémique.
Oui, enfin la posture du président du CRIF, Monsieur Khalifa, de ce point de vue-là, est claire et constante. Hein. Il n'y a pas de dialogue, il n'y en a jamais eu, notamment avec le Front National. Il est cette organisation qui est le CRIF a pointé depuis maintenant des années la montée de position de posture antisémite et plus encore d'un antisionisme à l'intérieur du mouvement de Monsieur Mélenchon, et du même coup il y a véritablement une volonté d'affirmer cette singularité, de pointer du doigt ces organisations comme étant, je mets des guillemets, mais complices d'une forme de montée d'un antisémitisme en France dont depuis l'affaire Halimi il y a maintenant une dizaine d'années. On a des éléments qui sont remarquables. Oui. Et parfois, une société française qui est maladroite. Je pense à un titre du Monde cette semaine qui était un titre qui pose problème, puisque le Monde titrait autour de l'histoire du terrorisme en France 2013-2018. Sauf que 2012, c'est les grands attentats commis à Toulouse, la mort de 3 militaires, de 5 personnes tuées pour leur confession juive, dont une petite Myriam qui devait avoir 5 ou 6 ans. Bon, et on voit bien que même un grand organe de presse, eh bien, met la barre en 2013, pas en 2012. Pourquoi? Quelle est l'explication? Je laisse la sagacité des auditeurs tenter d'y répondre.
Ça, c'est l'historien et le journaliste qui parle. Je m'adresse à l'historien cette fois, car il est bon, je pense, dans ce contexte, de rappeler, vous vous posez la question, c'est une des 100 questions à laquelle vous répondez. Qu'est-ce que le sionisme, exactement?
Pour comprendre ce qu'est ce mot, le sionisme, bon, c'est un mot inventé par Theodor Herzl, oui, à la fin du 19e siècle. Ça s'inscrit vraiment dans la poussée, dans l'invention des nationalismes européens. C'est contemporain de l'unité italienne, 30 ans plus tôt, de l'unité allemande, 1871. Bref, vous avez en Europe à ce moment-là l'affirmation de caractères nationaux ou de revendications nationales. Cette question va apparaître également pour le judaïsme européen avec deux éléments, un sionisme, donc la volonté d'avoir un territoire pour les juifs. Dès les années 1880, vous avez cette demande qui émerge dans des mouvements qu'on appelle les mouvements proto-sionistes, un mouvement qui s'appelle les Allemands de Sion et qui va chercher des hypothèses différentes, créer un État juif près des Grands Lacs en Afrique, sur le Burundi actuel ou à Madagascar, ou peut-être sur le modèle d'un État américain religieux où il y aurait un État qui pourrait être un État juif. Bon, et l'histoire va se poursuivre, hein, puisque Staline créera un Birobidjan en Sibérie, ouais, qui était une république soviétique juive à côté du fleuve Amour. Bon, mais la nouveauté 1896-97, c'est la volonté du retour en Israël, autour de Jérusalem, pour créer un État pour le peuple juif. Mais ce sionisme, en fait, il faut le mettre au pluriel. Comme vous avez des nationalistes, vous avez des sionismes. Il y a un sionisme de gauche, c'est celui qu'on va retrouver dans les fermes collectives,
ouais, les kibboutzim,
oui, qui vont fonctionner pendant quelques décennies. Bon, mais vous avez un sionisme de droite qui fonctionne et un sionisme religieux. Donc il y a à l'intérieur du sionisme plein de tendances qui sont différentes, qui ne font pas consensus même encore aujourd'hui en Israël, et à l'intérieur des partis politique. Le parti travailliste va poursuivre cette tradition d'un sionisme de gauche. Les partis religieux vont, eux, voir la volonté d'avoir un Eretz Israël, donc un Israël religieux qui puisse avoir des plus grandes frontières possibles. Et on a des lignes de fracture comme ça à l'intérieur. Dans une société de 6 millions d'habitants, et vous avez une variabilité très importante, et on peut penser qu'il y a au moins 4 ou 5 sionismes historiques qui fonctionnent avec leur corpus de pensée et qui ne sont pas réductibles les uns aux autres à proprement parler.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire, y compris sur la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Un salut comme chaque samedi à quelques fidèles auditeurs en Afrique. Je sais que vous écoutez l'émission, Jean-Claude. Vous savez qu'il y a ce rendez-vous. Bonjour aujourd'hui à Medoun Thiam à Niamey, à Jonas à Lubumbashi, à Christine et Elias à Cotonou. Je salue également Ulrich et Carlos à Yaoundé, Delvi à Pointe-Noire, Sako à Bamako et Laïn à Dakar.
Une semaine d'actualité.
Eh bien, partons pour l'Afrique maintenant, Jean-Claude Lescure, pour le Tchad. D'abord, le président Idriss Déby a annoncé en effet cette semaine la naissance de la 4e République, une naissance qui soulève évidemment des questions. Jean-Jacques Louarne.
Où va le Tchad? La question est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Sur le plan économique, le parti au pouvoir, le MPS, reconnaît de grosses difficultés quand l'opposition affirme que le pays est à terre. Fallait-il aujourd'hui réformer le système politique? Oui, dit-on au MPS qui mentionne des suppressions d'institutions pour faire des économies. L'essentiel réside ailleurs, au sommet de l'État. Le poste de Premier ministre est supprimé, une vice-présidence n'est pas créée. Selon les uns, ce sont des résolutions. pour d'autres des recommandations. Un comité de juristes va plancher et dire si les décisions du forum sont applicables. Se pose notamment le problème épineux du rapport entre l'exécutif et l'Assemblée nationale. Sans Premier ministre, qui peut se présenter devant les élus? Le président du groupe MPS à l'Assemblée, Houchard Tourgoudi, assure que rien n'est définitif. Un poste de vice-président peut être institué, assure-t-il. Une tempête de sable couvre N'Djamena, ironise un confrère. Personne n'y voit plus rien, sauf Idriss Déby Itno, qui tire les ficelles de cette quatrième république.
Le terrorisme continue de meurtrir le Mali. Une attaque s'est produite en effet mercredi soir contre un hôtel, l'hôtel La Falaise, dans la ville de Bandiagara, dans le centre du pays, correspondant cette fois de Serge Daniel.
Tout a commencé par des coups de feu entendus vers La Falaise, nom d'un hôtel de la ville malienne de Bandiagara. Dans un premier temps, légère panique, l'hôtel jouxte une banque. Certains ont d'abord pensé à des braqueurs de banque, mais très rapidement, les assaillants armés, ils étaient au moins 5, se dirigent vers l'hôtel. Il est environ 21h15 ce mercredi nuit. Par la suite, un rapide communiqué du ministère malien de la sécurité tombe. Des éléments de la garde nationale ont repoussé une attaque terroriste contre l'hôtel La Falaise, précis le communiqué, qui ajoute que 2 personnes, dont un garde, ont été blessées alors que 2 terroristes ont été neutralisés. Sur le terrain, nous avons pu obtenir d'autres informations. D'abord, une femme qui travaille dans l'hôtel a été grièvement blessée. Ensuite, parmi les assaillants, certains, pour battre en retraite, se sont confondus à la foule. De nombreux coups de feu ont été entendus, ce qui laisse penser que les assaillants ont dû un moment résister. Autre information, un garde national aurait perdu la vie. La ville de Bandiagara est le cœur du tourisme en pays Dogon. Elle fait partie des localités récemment visitées par le Premier ministre malien.
Et on vous parle des suites de cette attaque dans nos journaux. Parlons de la République démocratique du Congo maintenant, Jean-Claude Lescure, avant de vous retrouver avec un détour par New York à l'ONU pour évoquer le renouvellement du mandat de la plus importante force de casque bleu, la MONUSCO. Correspondance Marie Bourreau.
Pour le Conseil de sécurité, il n'y a pas de débat. La priorité reste la tenue des élections prévues le 23 décembre prochain pour remplacer le président Joseph Kabila et aboutir à une alternance pacifique du pouvoir. Mais les diplomates restent prudents. François Delattre, le représentant français.
La période électorale qui s'ouvre est cruciale pour l'avenir de la RDC, mais aussi de la région dans son ensemble. Le défi est historique dans un contexte délicat. Sans élections crédibles et acceptées par tous, c'est la stabilité du pays et de toute la région qui est en jeu.
Selon le texte adopté, les casques bleus de la MONUSCO seront chargés d'accompagner le processus électoral, notamment l'inscription des électeurs, le scrutin et la transition du pouvoir attendue le 12 janvier 2019, des mesures critiquées par le représentant congolais à l'ONU.
Les Congolais ne comprennent pas comment d'autres responsabilités doivent être attribuées à la MONUSCO pendant qu'elle n'est pas arrivée à remplir d'une manière satisfaisante sa principale mission.
Selon lui, la MONUSCO devrait au contraire se recentrer sur la lutte contre les groupes armés dans l'est du pays et envisager sérieusement son départ 20 ans après son arrivée en République démocratique du Congo.
En RDC, une ville aurait besoin de l'aide de l'ONU. Il s'agit de Beni, dans le nord-est du pays, où depuis 2014, des massacres de rebelles meurtrissent considérablement la population. Léa Lisa Vestaroff.
Les principales artères de la ville bloquées, des pneus brûlés et des jets de pierre sur les forces de l'ordre. Jusqu'à la mi-journée hier, la ville de Beni a été comme emportée par la colère de ses habitants. Car depuis 2014, les tueries se multiplient sans que les autorités ne parviennent à y mettre un terme. Gilbert Kambalé, président de la société civile de Beni, parle d'un véritable drame humanitaire.
Il y a plus de 1300 morts maintenant depuis le 15 octobre 2014. Vous imaginez? Donc il y a un moment où qui passe, il y a un peu d'accalmie, ensuite ils reviennent et ils tuent. La population vraiment ne sait plus quoi faire.
Depuis janvier, l'armée congolaise a lancé une nouvelle opération militaire contre les rebelles ADF, mais les tueries se poursuivent. Toute la journée hier, les magasins sont donc restés fermés. L'armée, elle, patrouillait en ville alors que les habitants se préparaient à une nouvelle nuit d'angoisse.
Une semaine d'actualité.
Alors, il nous faut terminer, Jean-Claude Lescure, cette édition d'une semaine d'actualité plus longue. C'est la première édition de cette nouvelle formule avec l'ONU. D'abord, la MONUSCO. Un mot sur la MONUSCO, cette force de casque bleu, sur les casques bleus en général, en Afrique, qui sont essentiellement en Afrique aujourd'hui.
C'est quand même une des, malgré toutes les critiques, une des réussites de l'ONU. D'avoir réussi à mettre en place, là où il y a des foyers de tension importants, des troupes qui souvent souffrent d'une mal définition de leur rôle. Est-ce qu'elles doivent imposer la paix ou être juste une force d'interposition pour séparer deux acteurs qui s'affrontent ? Ces problèmes de définition, chapitre 6, chapitre 7 de la charte de l'ONU...
Règlement pacifique et utilisation de la force.
Conduisent du même coup à geler aussi les conflits. D'où la présence, que ça soit à Chypre, que ça soit dans le cas précis qu'on évoque là, de troupes qui sont déployées depuis 15, 20, 40, 50 ans, voire 70 dans le cas israélien, palestinien, pour quelques casques bleus qui sont là. Ça les met au congélateur, mais en même temps, ça permet d'avoir des conflits de basse intensité et du même coup, un certain nombre de populations civiles de vivre un petit peu moins mal que si la situation explosait. D'un point de vue rationnel, cartésien à la française, c'est pas satisfaisant. On attendrait des solutions définitives. Mais les solutions de statu quo en diplomatie, c'est souvent des solutions qui permettent de conserver une forme de paix.
Alors terminons dans la région qui est la vôtre, et pour reparler du conflit israélo-palestinien. Il faut rappeler que l'ONU est à l'origine du plan de partage de la région.
Oui, la légitimité de la création d'un État israélien, d'un État palestinien, repose sur un vote du 30 novembre 1947, plan de partage de la Palestine mandataire, contrôlé par les Anglais à ce moment-là. 14 mai 48, Israël est créé, et normalement un État palestinien ou un État national arabe de Palestine va voir le jour. Malheureusement, cette chance historique n'a pas été saisie par les habitants, et entre autres parce que leurs voisins, que ce soit les Égyptiens de l'époque, les Jordaniens, les Libanais, etc., convoitaient des bouts de territoire qui auraient pu devenir un État palestinien. Et cette longue histoire, elle va durer avec ses interventions multiples et diverses, jusqu'à la guerre des Six Jours en 1967, voire jusqu'à la première intifada du début des années 1990.
Et il nous faut aussi parler d'une résolution célèbre, qui est la résolution 242. Il faut rappeler ce que cette résolution.
Alors cette résolution, elle prend suite à d'autres résolutions de 1948-1949, qui prévoit dès l'époque soit le droit au retour des Palestiniens, soit une indemnisation juste, donc qui sont des éléments importants de règlement du conflit. Résolution 242, c'est un chef-d'œuvre de la diplomatie internationale. Vous avez deux versions, comme tous les textes à l'ONU, une version française et une version en anglais. La version française dit « retrait des territoires occupés par Israël », la version anglaise dit « retrait somme ». Territories, donc retrait
deux territoires, c'est pas la même chose.
Et c'est pas la même chose, mais c'est ce qui a permis de voter la résolution et d'éviter le veto, parce que derrière, les diplomaties ont vu deux réalités différentes. Aujourd'hui, certains peuvent dire il faut la version française, retrait de tous les territoires, d'autres disent retrait de quelques territoires, c'est la posture du gouvernement israélien qui dit on applique la résolution de 242, ce qui est vrai dans sa version anglaise. Mais de l'autre côté, il y a des sources de contestation. En même temps, cette résolution n'aurait jamais été votée en 1967 dans une des deux langues.
Alors j'ai une dernière question, Jean-Claude, qui est celle d'un auditeur. Je me fais son porte-parole. Il est étudiant et prépare un doctorat au Cameroun. Il se demande si le conflit israélo-palestinien relève d'un mythe religieux. Vaste question.
Bon, la géographie jouerait en sa faveur pour autour de Jérusalem, la capitale de ces religions monothéistes. Mais c'est d'abord un conflit de type national. C'est l'affrontement de nationalisme, d'un côté les sionismes, de l'autre côté le nationalisme arabe qui est contemporain. Le premier congrès national arabe va se réunir à Paris au début des années 1910 à l'Institut de géographie, boulevard Saint-Germain. Donc on est vraiment dans la même période, et du même coup c'est l'appétence pour l'idée nationale inventée par la Révolution française qui va être un bouleversement mondial, toucher les États africains également, avec la volonté de créer des États-nations. La religion ne sera utilisée que par la suite, et c'est véritablement dans la période la plus récente de l'après 1970-80 qu'on voit le fait religieux contaminer véritablement le paysage politique de la région.
Merci Jean-Claude Lescure. Il faut lire absolument votre livre qui s'intitule Le conflit israélo-palestinien en 100 questions, livre publié aux éditions Talendier. Le consulter au fur et à mesure des développements de l'actualité dans cette région. Merci d'être venu nous en parler.
Merci de votre invitation.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Nous parlerons d'une histoire du féminisme avec notre invitée Séverine Auffray. Demain dimanche, donc 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.